Jean Froissart. Nous savons peu de choses des premières années de la vie de Jean Froissart, né à Valenciennes vers 1333, dans le comté de Beaumont. Il reçoit une formation de clerc, mais tourne le dos à la prêtrise pour se consacrer à la poésie. Il entame une carrière de cour en Angleterre auprès de la reine Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III. C'est ce dernier prince, petit-fils de Philippe IV le Bel, qui règne de 1285 à 1314, qui refuse l'application de la loi salique en France à la mort du dernier capétien direct, Charles IV le Bel, qui règne de 1322 à 1328. Considérant le nouveau roi Philippe VI de Valois, cousin du dernier, comme moins proche, donc moins fondé à accéder au trône de France, Édouard III d'Angleterre se lance dans la guerre de Cent Ans pour faire valoir ses droits. C'est donc une époque troublée que celle de la vie de Jean Froissart. Dans une Europe en conflit permanent, il voyage beaucoup en Italie au service d'un des fils d'Édouard III, à Bruxelles à la cour du duc de Brabant, à Avignon à celle du pape Clément VI. Il assiste à des événements prestigieux comme le sacre de Charles VI à Reims en 1380. Familier des grands de ce monde, homme de cour accompli, poète célébré, Froissart est au cœur des ambitions, des luttes de pouvoir dans le raffinement d'un Moyen-Âge flamboyant et finissant. Ses chroniques, ou plutôt chroniques de France, d'Angleterre, Bretagne, Bourgogne, d'Écosse et d'Espagne, Portugal et d'autres parties, couvrent la période de 1325 à 1400. Psychologue, inquisiteur des mouvements de l'âme, Froissart y procède par portraits successifs. Celui de Bertrand du Guesclin ou de Charles V, qui sont des personnages hors du commun, de grandes familles, forgeant l'histoire des nations en cours de constitution sous leur forme monarchique renforcée. Il accorde une place d'honneur aux sources directes dont les témoignages. Il s'efforce alors, dans un souci d'impartialité, d'en éliminer les appréciations gratuites et les jugements de valeur. Il ne saurait toutefois être un historien désincarné, car son œuvre révèle au fil du temps sa propre évolution. Plutôt anglophile à ses débuts, il l'est de moins en moins au fil du temps. Au-delà des considérations politiques, l'œuvre de Froissart est remarquable par le témoignage unique de la vie du temps qu'elle nous livre. Fêtes, tournois, batailles, tout prend sous sa plume les traits d'une vie palpitante. Rédigées entre 1370 et 1400, les chroniques sont divisées en quatre livres remaniés par leur auteur jusqu'à sa mort. Le renom de l'œuvre historique de Froissart tend à éclipser sa création poétique, les dits typiquement médiévaux comme le paradis d'amour, le dit de la marguerite, l'horloge amoureuse, les poèmes souvent autobiographiques, l'espinette amoureuse, la prison amoureuse, le joli buisson de jeunesse ou encore un roman en vers dans l'esprit du cycle arthurien, Méliador. Philippe de Comines. C'est dans une famille aisée, originaire d'Ypres, dans cette constellation de cités flamandes sous suzeraineté bourguignonne, que naît Philippe de Comines en 1447. Après d'honnêtes études, sans éclat particulier, il entre à son tour, reprenant une tradition familiale au service des ducs de Bourgogne, plus précisément en qualité d'écuyer du comte de Charolais en 1464. Ce dernier, fils du duc Philippe le Bon, est promis à la célébrité sous le nom de Charles le Téméraire. Le jeune prince fait montre déjà de son tempérament ombrageux, suspicieux, prompt à des éclats de colère sans limite. C'est donc dans une atmosphère instable que Comines accomplit ses premières missions diplomatiques, en Angleterre notamment, activité où il révèle un talent précoce. Devenu duc de Bourgogne, Charles le Téméraire retient prisonnier le roi de France Louis XI lors de la célèbre entrevue de Péronne du 9 au 14 octobre 1468. Imprudent pour une fois, Louis XI rencontre Charles alors même que ses envoyés à Liège tentent de soulever la ville contre le duc. La colère du téméraire est sans borne, la vie de Louis XI tient à un fil bien ténu. Il semble que les qualités de diplomate de Comines aient joué un rôle dans la survie du roi et la décision du duc de le laisser repartir. C'est en 1472 que Comines s'enfuit de la cour du téméraire pour se mettre définitivement au service de Louis XI, sans doute dégoûté des emportements du premier et admiratif de l'habileté du second. Le roi de France le comble de faveurs. Nommé conseiller, chambellan, il se voit octroyer la riche principauté de Talmont en Vendée. Son mariage, arrangé par Louis XI avec une riche héritière poitevine, Hélène de Chambes, outre le titre de seigneur d'Argenton, parachève sa fortune. Mais après la mort de Louis XI en 1483, Comines complote contre la régente Anne de Beaujeu, sœur aînée du futur Charles VIII, alors mineur. Une participation à une tentative d'enlèvement ratée du jeune monarque lui vaut une confiscation de tous ses biens et plusieurs mois de prison. Ses talents de diplomate lui octroient encore toutefois quelques missions au service de Charles VIII, puis de Louis XII au moment de leur guerre d'Italie, notamment à Venise en 1494-1495, mais les liens privilégiés avec le roi de France sont définitivement rompus. Comines ne retrouve jamais la faveur dont il a joui sous Louis XI. Il meurt en 1511 dans un état de semi-disgrâce et d'exil. L'œuvre de Comines, ses mémoires, portent l'empreinte de près d'un demi-siècle au service de la diplomatie européenne pour le duc de Bourgogne, puis pour le roi de France. Fin connaisseur des cours européennes, de l'Angleterre, des cités italiennes, Comines rédige les livres 1 à 6 de ses mémoires entre 1489 et 1491, puis les livres 7 et 8 entre 1497 et 1498. Des retouches, ajouts, modifications ultérieures sont intervenues sur ses versions premières. Les mémoires présentent plus d'un trait d'originalité. Concernant leur genèse, c'est l'archevêque de Vienne, Angelo Catto, qui demande à Comines de lui servir de scribe pour le matériau à rassembler d'un futur mémoire, ses souvenirs sur Louis XI. Petit à petit, ce qui devrait être un brouillon pour l'œuvre d'un autre devient une construction autonome. Comines passe d'un mémoire à des mémoires. Ceci explique la simplicité du style qui rend plus pénétrantes encore les analyses psychologiques, loin de tout artifice rhétorique. Le choix même du titre, « Mémoire », indique la volonté de recueillir des faits bruts destinés plus tard aux études approfondies des historiens. À une vision générale et englobante de l'histoire, Comines oppose les séries de portraits, les événements concrets, le particulier, des choix qui amènent, outre l'écheveau des diplomaties officielles ou secrètes, à en faire un prédécesseur de Nicolas Machiavel. Jules Michelet. Historien et écrivain français, Jules Michelet est né à Paris en 1798. Son père, maître imprimeur, est réduit à la pauvreté dans une France napoléonienne où la liberté de la presse n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est donc un lourd sacrifice pour la famille que d'envoyer le jeune Jules au lycée Charlemagne. Il y brille rapidement par sa vive intelligence et déjà par ses qualités de travailleur acharné. Il soutient en 1819 son doctorat ès lettres avec les deux thèses requises à l'époque, l'une consacrée aux vies parallèles ou « Vie des hommes illustres » de Plutarque, l'autre à l'idée de l'infini d'après Locke. En 1821, il passe avec succès l'agrégation de lettres. Sa double formation d'historien et de philosophe l'amène jusqu'en 1829 à enseigner les deux matières, par exemple en occupant la chaire de philosophie et d'histoire de l'école normale de 1827 à 1829. Passé cette date, il se consacre exclusivement à l'histoire. Retenons toutefois l'idée d'une œuvre en permanence animée par le désir d'appliquer un questionnement philosophique à l'histoire. Le souci du pédagogue anime Michelet et l'amène à publier pour ses étudiants deux manuels. Un tableau chronologique de l'histoire moderne 1453-1789 en 1825 et un précis d'histoire moderne en 1829. Ardent libéral teinté de catholicisme, bien qu'issu d'une famille protestante, Jules Michelet voit en la Révolution de 1830 une étape fondamentale du devenir de la France. Stimulé intellectuellement par les événements, il donne en 1831 une introduction à l'histoire universelle et la première partie d'une histoire romaine. C'est le moment où son acception romantique de l'histoire se fait jour. La France devient une âme et une personne, et il s'assigne une tâche immense. L'historien doit, dit-il, permettre la résurrection intégrale de la vie du passé. L'année 1831, décidément très faste, le voit nommé aux Archives nationales où il entreprend l'œuvre de sa vie, la future Histoire de France pendant 40 ans d'un labeur acharné. En 1834 et 1835, il est professeur suppléant à la Sorbonne. En 1838, titulaire de la chaire d'histoire et de morale du Collège de France, fonction occupée jusqu'en 1851. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte lui coûte ses moyens d'existence habituels, son refus de prêter serment d'allégeance à l'Empire lui fait perdre le poste aux Archives nationales. Désormais, Michelet doit compter sur sa plume pour vivre et ses publications se multiplient jusqu'à sa mort en 1874. Entre 1833 et 1844, Michelet publie les 6 premiers volumes de sa monumentale Histoire de France, traitant des origines et du Moyen-Âge jusqu'à la fin du règne de Louis XI en 1483. Puis il s'interrompt pour se consacrer à la Révolution française, car il estime ne pouvoir convenablement analyser des siècles de monarchie sans maîtriser les événements qui en marquent la fin. De 1847 à 1853 paraît donc une histoire de la Révolution française qui couvre la période des États généraux de 1789 à la mort de Robespierre en 1794. Cette interruption est jugée le plus souvent comme dommageable à l'œuvre. Michelet y démontre certes la maîtrise d'une écriture alerte, brillante, l'art des portraits, mais se laisse emporter par une veine prophétique dont il ne se départira plus guère. En lieu et place d'une révolution faite par les notables à leur profit, Michelet alimente le mythe d'une révolution populaire, donne aux masses une importance qu'elles n'ont pas eue. Par la suite, quand, entre 1855 et 1867, les 11 autres volumes de l'Histoire de France consacrés à la Renaissance et au temps moderne paraissent, ils sont marqués par les emportements passionnels. Rois et dirigeants passent devant le tribunal de l'Histoire et doivent des comptes au peuple. La puissance du verbe, la vie des scènes évoquées en font un drame romantique digne de la plume d'un Hugo. C'est une œuvre littéraire tout autant qu'historique quand l'auteur perd de vue la recherche de l'impartialité au profit du désir d'emporter l'adhésion du lecteur. Au regard des exigences scientifiques actuelles, Michelet ne serait peut-être pas au nombre des historiens reconnus, mais bien peu peuvent encore aujourd'hui se vanter d'insuffler à leurs lecteurs une semblable passion ardente pour l'histoire. Outre les ouvrages mentionnés précédemment, Michelet, travailleur acharné, laisse une œuvre conséquente. Dans le domaine historique, on trouve « Mémoire de Luther » en 1835, « Principes de la philosophie de l'histoire » en 1835, « Les origines du droit français » en 1837, « Traduction des travaux de Giambattista Vico » 1668-1744, « La sorcière » en 1862, « La Bible de l'humanité » en 1864, « Une histoire du XIXe siècle » entre 1872 et 1875. Dans celui des sciences naturelles, on trouve « L'oiseau » en 1856, « L'insecte, la mer » en 1861 et « La montagne » en 1868, où Michelet mêle création divine et biologie. Dans le domaine des réflexions de philosophie morale, on trouve « L'amour » en 1858, « La femme » en 1859 et « Nos fils » en 1869. Esprit mystique plus que religieux, Michelet s'oppose à l'influence en France de l'ordre des Jésuites dans une série de conférences prononcées au Collège de France qui font ensuite l'objet de publications. Des Jésuites en 1843, écrit avec Edgar Quinet, Du prêtre, de la femme, de la famille en 1844 et Le peuple en 1846. Voyageurs, ses carnets de séjour en Angleterre, Allemagne, Italie, Suisse sont édités en 1894 sous le titre Sur les chemins de l'Europe. Marc Bloch. Historien médiéviste, Marc Bloch est né dans une famille juive d'universitaires en 1886. Son père, Gustave, occupe la chaire d'histoire ancienne de l'Université de Lyon. Il suit une scolarité brillante au lycée Louis-le-Grand à Paris, obtient en 1903 le baccalauréat avec mention très bien, intègre l'École normale supérieure en 1904 et reçu à l'agrégation d'histoire en 1908. Il poursuit sa formation supérieure aux universités de Berlin et de Leipzig, puis en qualité de pensionnaire à la Fondation Thiers, au Centre de recherche et de documentation relative au XIXe siècle. Sa carrière d'enseignant au lycée d'Amiens, entamée à la rentrée de 1913, est interrompue par la Première Guerre mondiale. Mobilisé dès le 2 août 1914, Marc Bloch participe à toute la durée du conflit, quitte l'armée avec le rang de capitaine, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. En 1919, il retrouve des fonctions universitaires comme chargé de cours d'histoire du Moyen-Âge à la faculté des lettres de l'Université de Strasbourg. Cette même année, il épouse Simone Vidal. Le couple aura 6 enfants. En 1920, sa thèse de doctorat, « Rois et serfs » est publiée, suivie en 1924 de son œuvre maîtresse, « Les rois thaumaturges », où il étudie le miracle de la guérison des écrouelles, qui sont des ganglions du cou marquant une infection tuberculeuse chronique, par les rois de France, comme un élément de la puissance royale et de la fonction sacerdotale du souverain. Il occupe successivement la chaire d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Strasbourg en 1927, puis celle d'histoire économique à la Sorbonne en 1938. Mais c'est en 1929 qu'il révolutionne l'historiographie par la fondation avec Lucien Febvre de la revue des Annales d'histoire économique et sociale qu'il codirige jusqu'en 1940. La revue dépasse son cadre initial de support de publications historiques pour devenir l'expression du mouvement dit de l'école des annales. En réaction à une histoire jusqu'alors seul objet d'enseignement et de recherche, fondée sur l'étude des événements, dates, batailles, centrée sur la seule perspective politique et diplomatique, Marc Bloch et Lucien Febvre promeuvent une histoire du temps long, d'évolution des phénomènes économiques et sociaux. À l'histoire des grands hommes, ils substituent une histoire qui se veut totale, qui fait appel à la démographie, la sociologie, l'anthropologie ou la géographie pour esquisser les contours d'une histoire matérielle de la vie quotidienne. Illustration parfaite de ce nouveau courant, Marc Bloch donne en 1931 les caractères originaux de l'histoire rurale française, où il expose la permanence en France de trois types de structures agraires, qui sont l'open field, ou champ ouvert, au nord de la Loire, le bocage, parcelles encloses de haies vives ou de pierres à l'ouest, et le type méridional au sud. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, Marc Bloch passe la drôle de guerre jusqu'en mai 1940 en remplissant des fonctions à l'état-major de la 1ère armée du Nord, puis participe à la campagne de France et rejoint sa famille après l'armistice. Le statut des Juifs de l'automne 1940 l'exclut de la fonction publique, mais il est réintégré en janvier 1941 pour service scientifique exceptionnel rendu à l'État français. Pendant la guerre, il enseigne successivement aux universités de Clermont-Ferrand et de Montpellier jusqu'en novembre 1942, quand les forces d'occupation envahissent la zone libre. Dès 1941, Marc Bloch entre dans la résistance, participe à la mise en place du mouvement Combat. En 1943, il entre dans la clandestinité, devient cadre dirigeant du mouvement Franc-Tireur à Lyon. Son activité dans la résistance s'achève avec son arrestation par la Gestapo le 8 mars 1944. Incarcéré à la prison de Montluc, torturé, Marc Bloch est exécuté sommairement le 16 juin 1944. L'engagement dans la guerre puis la résistance n'empêche pas la poursuite de l'œuvre de l'historien, avec la publication du premier tome de La Société féodale en 1939, puis du second en 1940. L'Étrange défaite, rédigée entre juillet et septembre 1940, mais publiée en 1946, et L'Apologie pour le métier d'historien, conçue entre 1941 et 1943, parue en 1949.